Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit vendredi tranquille, nous ne le sommes pas. Nous, pour les deux prochaines heures, on va vous proposer des discussions qui, j'espère, seront passionnantes. On va en deuxième heure d'émission. Je vous le dis tout de suite parce que je veux vraiment allumer votre intérêt là-dessus. On va parler de vol de véhicules. Je sais pas autour de vous là, si vous connaissez du monde qui se sont fait voler leur voiture carrément. Moi, c'est mon voisin immédiat à qui c'est arrivé la semaine dernière. Il s'est fait voler son auto. Tu sais, tu te gares la veille, le lendemain matin, tu te réveilles, plus d'auto. J'ai une autre amie, une maquilleuse, entre autres, cette semaine, qui s'est carrément toute faite. Elle, ils ont laissé l'auto, mais ils ont défoncé sa voiture et ils ont pris sa mallette de maquillage. Alors, ça semble être un problème en recrudescence. Vous savez que Montréal est une des capitales du vol de voitures en Amérique du Nord. Il y a des marques, d'ailleurs, qui sont plus susceptibles d'intéresser les voleurs que d'autres. On va en parler tout à l'heure avec nos gars de voiture et je compte sur vos commentaires, vos témoignages. Dites-moi si vous êtes arrivés. On aura également, on fera le tour des assurances, parce que je me suis rendu compte en parlant avec des gens cette semaine que vous êtes un peu mêlés, on est tous un peu mêlés à savoir est-ce que c'est l'assurance voiture, est-ce que c'est l'assurance habitation, l'assurance automobile qui intervient dans ces cas-là. Donc, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors voilà, si vous connaissez quelqu'un qui s'est fait voler son auto, appelez-le, Didier qui m'appelle. 514-790-9850. Je vous présente mes invités pour parler de notre premier sujet qui est pas, je vous le dis tout de suite, là, ça va pas être déprimant. On va parler de la mort, mais ça va pas être déprimant. Ça va être instructif. Et je pense que ça va quand même être intense. Peut-être apaisant. Dominique Bertrand, merci beaucoup d'être là, Dominique.
Ah, ça me fait plaisir, Isabelle.
Avec nous également, Alain Labonté. Merci, Alain,
Allô,
d'être
Isabelle.
Là. Alain qui, en plus, est celui qui se charge de ce salon de la mort.
Oui.
Salon de la mort. Écoute, plein de monde me dit, voyons, un salon de la mort, c'était quoi l'idée?
Ben, c'est une excellente idée. Il y a un salon de la chasse et de la pêche. Je sais pas s'il y a 1% de la population qui pêche. En tout cas, je sais qu'il y a 100% qui vont mourir.
Ben, clairement.
Il y a des réponses à aller chercher.
Écoute, vu de même, mon cher Alain, c'est
et
100%
de gens qui vont perdre quelqu'un qu'ils aiment
tout
aussi.
À fait. Ouais. Tout à fait.
C'est vrai. Et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que je vous avoue que personnellement, cette année, j'ai comme mon quota de gens qui sont morts.
Oui.
Et j'en ai parlé avec Dominique, puis en discutant ensemble, je me suis rendu compte à quel point j'étais pas toute seule à pas savoir trouver les mots. Moi, c'est encore difficile pour moi de dire à quelqu'un les condoléances. C'est très difficile. Puis je me rends compte aussi, puis avec la mort de Joanne Fontaine, mon amie, dernièrement, je me suis rendu compte que les gens sont très généreux. Ils te donnent des souhaits.
Ils sont bienveillants.
Mais à chaque fois, ça te replonge, toi, dans le deuil, pareil. Tu comprends ce que je veux dire, Dominique et Alain? Et c'est toujours délicat. Comment tu fais pour parler de la mort sans toujours retomber dans le drame?
Mm-hmm. Oui, puis des fois, c'est pas toujours d'en parler. Des fois, c'est juste d'écouter.
Oui.
Les gens qui sont en deuil, par exemple, n'ont pas toujours la force d'en parler. Mais de sentir qu'il y a quelqu'un à côté d'eux qui est attentif à leur peine, qui vont être attentifs aux besoins, comme par exemple quelqu'un qui est endeuillé, là, faut y porter des croissants le matin,
laisse
ça au pied de sa porte. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire.
Des attentions.
Puis être attentif. Et quand la personne se sent disposée à parler, ben l'écouter.
Ouais.
Il n'y en a pas de réponse, il n'y en a pas de remède à cette peine-là. C'est le temps et pleurer sa peine.
Mmh.
Mais il faut la pleurer devant quelqu'un qui l'entend, qui veut l'entendre. C'est ça le remède.
Mais même des années après un deuil éprouvant, ça peut être encore difficile. Il y a ton histoire, Dominique, on va la rappeler aux gens. Mais je voudrais vous présenter notre prochain invité, Martin Provencher. Martin qui a écrit des livres sur l'immobilier et c'est en général pour ça qu'on lui parle. Mais là, ce matin, je voulais lui parler à Martin parce qu'il a perdu sa mère dans des circonstances assez tragiques. Il avait 11 ans, sa mère s'est fait assassiner devant lui et il a accepté de nous en dire un petit mot ce matin. Merci Martin Provencher d'être avec nous.
Fait plaisir.
Et je sais que pour toi, c'est quelque chose d'encore très difficile à gérer, cette situation, cette peine, cette mort extrêmement dramatique et violente.
Ben effectivement, ça fait partie des traumatismes de ma vie. Je pense que la mort, c'est pas un sujet facile à aborder pour qui que ce soit. J'ai un de mes amis qui a perdu sa mère qui avait 95 ans dernièrement, puis il m'a parlé d'une immense peine.
Mm.
Même si on dit à 95 ans, c'est pas nécessairement une surprise, mais ça fait une douleur extrême quand même. Mais dans mon cas, comme j'avais 11 ans, puis que ça a été subi parce que du jour au lendemain, dans le fond, comme ma mère a été assassinée, sa vie lui a été enlevée, puis de façon violente en plus. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble, le fait que c'était inattendu, le fait que c'était violent, le fait aussi qu'à 11 ans, on a encore besoin de sa mère, surtout moi, j'avais plus de père. Donc, ça a bouleversé ma vie aussi sur tous les plans, là, parce que j'étais obligé de déménager, changer de famille, etc. Donc, ça s'est ajouté au deuil. Donc, tout ça mis ensemble, ça a été pour moi, évidemment, une première confrontation à la mort, que oui, comme votre invité le disait, 100% des gens vont mourir. Donc, nécessairement, la mort fait partie de la vie. Mais cet épisode-là, cette première confrontation, moi, c'est sûr que c'est ancré dans chacune de mes cellules. Puis je suis le plus inadapté des invités dans un salon mortuaire. Dans mon cas, c'est catastrophique. Là, parce que si les gens sont mal à l'aise, moi, je suis complètement inadapté. Là. Je m'en cache pas. Même souhaiter mes plus sincères condoléances, ça arrive souvent que je suis même pas capable de dire ça. Là. Mm-hmm. Tellement je suis à côté de la plaque.
Ça fait revivre des comme une détresse intérieure, probablement.
Ben c'est ça. Je pense que c'est un mécanisme de défense. Là. Je pense que c'est dans mes cellules, comme je le disais.
Mm-hmm. Ouais.
Puis, écoute, j'essaye même plus là, de changer ça. Bon, quand j'ai une invitation ou quand pas une invitation, mais quand je dois me rendre dans un salon mortuaire, ben je sais d'avance, tu sais, que j'aurais beau faire tous les efforts, me parler, essayer, j'ai tout essayé, mais quand je franchis le seuil de porte, c'est une douche glacée qui me transforme. Puis une fois sur deux, je me présente devant les personnes, puis bon, je suis là. Ils voient que je sympathise avec eux. Mais
tu trouves pas les mots, c'est ça. Mais c'est pas évident de trouver les mots. Puis la plupart des gens, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Ouais, mais c'est bien un sujet plate, la mort. Là. On veut pas parler de ça. » C'est comme l'ultime tabou, je pense, Alain. Oui. C'est comme, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a un salon de la mort puis tout le monde se dit « Oh mon Dieu, c'est comme... » c'est la première fois, est en 2018. Là. Comment se fait que ça n'a pas été un des premiers? Mais parce qu'on dirait qu'on veut éviter ça. On veut pas en parler. On dit « Ah, moi, je suis pas dans la mort, je suis dans la vie. » Comme si le fait de parler de la mort, ça faisait mourir, alors qu'il y a zéro lien.
Ben, c'est comme l'idée du testament. Les gens ont peur de faire leur testament parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir en sortant de chez le notaire.
Mais en même temps, la mort est très présente. Tu vois, Martin Provencher parle du salon mortuaire. Combien de fois par année le monde va voir quelqu'un dans un salon pour leur porter leur...
Mais personne n'est à l'aise. Personne n'est vraiment à l'aise, même quand on aime beaucoup les gens qui sont endeuillés et qu'on va leur offrir nos condoléances. On est d'abord, tu sais, je pense que c'est naturel de ne pas se sentir à l'aise avec la souffrance de quelqu'un parce qu'on a peur de se mettre les pieds dans les plats, on a peur de ne pas dire les bonnes choses, on cherche les mots réconfortants, mais des fois, juste de dire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi te dire, j'ai de la peine pour toi, puis ta peine me fait souffrir, puis j'espère que tu vas aller mieux, puis tu vas avoir le courage de traverser ton deuil. Des fois, juste dire, je ne sais pas quoi te dire. C'est juste assez, des fois.
Oui.
C'est ça. Bien.
Alain, comment tu vois ça, toi?
Ben, très jeune, j'étais confronté
à ça. Oui, c'est particulier.
À l'âge de 9 ans, mon cousin qui est décédé, j'étais dans sa chambre.
Il y a beaucoup de gens qui sont morts devant toi.
Oui, à l'âge de 11 ans, mon grand-père.
Ça, c'est effrayant.
À l'âge de 16 ans, j'attendais ma bonne amie Nancy au restaurant. Elle venait me rejoindre pour manger. Elle a eu un accident d'auto en venant. À 19 ans, je me suis dit, au Maroc, il y a eu un attentat, il y a un building qui a sauté devant nous, on recevait des briques en pleine figure, on enjambait les cadavres, tout ça. Donc, très jeune, j'ai toujours été conscient que la mort rôdait autour, tu sais. Et c'est un peu comme quand ma sœur avait eu son diagnostic de leucémie, c'est comme si c'était comme une balle perdue qui avait passé à côté de moi, mais qui avait capté quelqu'un de ma famille. Mm-hmm. Donc, pour moi, ça fait tellement partie de la vie. Oui, des fois, c'est peut-être pas simple de trouver les mots. Et aussi, à la fin des années 80, 90, moi, j'ai beaucoup de mes amis qui sont morts d'ici là.
Oui. Et t'en as accompagné plusieurs.
Oui, 7 en tout. Donc,
7 personnes.
Oui, donc, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose de naturel.
Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent « maudit sujet plate, là
» Ben, sujet plat.
Qu'on veut pas aborder parce qu'on veut pas penser à ça.
Ben, moi, je dis que c'est un sujet essentiel. C'est moi...
Qu'est-ce que ça dit sur notre rapport à la mort? Je ne pas être capable d'en parler.
Quand
ça pense, dit beaucoup, je trouve.
Quand je pense à mon filleul, Marcus, qui a 10 ans, j'ai toujours dit que j'espère que je vais être un parrain bienveillant pour lui. J'espère d'être la courroie de transmission, en tout cas, entre lui et la vie, tu sais. Mais encore faut-il aimer la vie pour être capable d'entrer dans la mort, tu sais. Parce que je me dis peut-être qu'on ne sait pas vivre si on ne sait pas mourir.
Oui, puis mourir à quelque chose. Oui. Alors, faut qu'on vive notre vie pour mourir à quelque chose.
Et ce que je trouvais beau de Joanne Fontaine, c'est qu'elle regardait la mort en pleine face, puis elle ne perdait pas une seconde pour danser avec la vie.
Ouais.
Et c'est ça, je pense, qui est indissociable entre la vie et la mort. On ne veut pas mourir. Moi, je vivrais 400 ans. Tu sais, je travaille 20 heures par jour, puis quand j'ai une idée, je me dis, j'ai pas le temps, mais on le fait quand même. J'aime la vie comme un fou. Mais en même temps, moi, je suis prêt à mourir demain matin parce qu'il va falloir mourir, puis mes défis professionnels sont en arrière de moi. J'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai voyagé, j'ai étudié, j'ai fait plein d'affaires. Donc moi, c'est comme je dis dans mon livre, dans une âme et sa quincaillerie, j'ai l'impression de faire de l'overtime sur le dos du bonheur, tu sais.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que je dis à quelqu'un? Ben, c'est que je suis là. Si tu as besoin de parler, je suis là. Je peux faire n'importe quoi, comme
mais
tu disais, Dominique.
C'est intéressant ce que tu dis.
Dominique, ouais.
Les gens, souvent, ont peur de la mort parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir assez vécu.
Ben,
que la mort va les faucher, va leur tirer le tapis dans le dessus des pieds avant d'avoir vécu. Je pense que le remède pour avoir moins peur de la mort, c'est de vivre à planche.
Oui, tout à fait.
Oui.
Et les gens qui disent, ben voyons, un salon, ben voyons, j'ai accompagné tellement de gens en face de... Ben tellement, quand même.
Plusieurs, là.
Mais j'en ai vu des situations aussi. J'en ai vu des familles se déchirer. J'en ai vu des gens qui n'ont jamais réglé de testament. Et moi, je me dis, en tant qu'individu, moi, je suis parti de chez nous, j'avais 16 ans. J'avais besoin d'indépendance. Là, je ne voulais pas être un poids pour personne. Bien, sachez que mon testament est fait et je ne serai pas un poids pour personne quand la sortie de secours va arriver.
C'est tout fait. Martin aussi, d'ailleurs, Martin Provençal, aussi, malgré toute le drame autour de la mort de ta mère, tu as quand même fait ton testament.
Ben oui. Mais non seulement...
Mais tu dis ben oui, comme si c'était une évidence, mais
ça n'est pas une évidence.
J'en ai pas, moi. J'en ai pas de testament.
Ah ben là, toi, je vais te chicaner.
Je sais.
Ça, je recommande.
Mais non,
mais vous voyez, ça, là, moi, quand ma mère est décédée, elle s'était divorcée genre un an et demi avant.
Oui.
Mais le divorce n'était pas réglé. Donc, quand elle est décédée, comme elle n'avait pas de testament, ben en fait, c'est notre père qui nous avait abandonnés, qui a hérité que ma mère avait, dont la maison. Puis, le pire, dans le fond, c'est que mon frère avait, lui, il avait 18 ans. Puis, comme des fois les jeunes font, tu sais, l'auto, dans le fond, c'est à eux, mais c'est officiellement au nom de leurs parents, parce que ça coûte moins cher d'assurance. Puis bon, en tout cas, fait que, tu sais, dans le fond, mon frère avait racheté la voiture de ma mère. C'était vraiment sa voiture. Mais il avait pas fait les changements de plaque. Fait que son auto s'est retrouvé sur des blocs, là, en arrière de la maison chez mon père, puis il l'a laissé pourrir, là, juste pour en rajouter un peu. Fait qu'avoir un testament, avoir des assurances, même si effectivement c'est un peu plate. Oui, c'est vrai, là. Faut aller chez le notaire, puis il faut régler ça, puis faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait ensuite. Puis moi, j'ai deux fils là, qui ont 8 et 10 ans. Donc, si je décède, puis ma conjointe en même temps, ben ça va prendre quelqu'un pour s'en occuper. Là, puis je suis bien placé pour savoir que ça fait partie des réalités parfois de la vie.
Oui, tout à fait.
Donc moi, évidemment, j'ai tout réglé ça, mandat d'inaptitude et compagnie. Fait que si je décède... comme vous le disiez tantôt, moi, je ne laisserai pas mes proches dans le trouble ou dans la misère.
C'est ça, c'est un acte d'amour aussi. Ça facilite la vie de ceux qui restent.
Oui.
Après, ils ont déjà leur peine à pleurer. Si en plus, il faut qu'ils se démerdent dans de la paperasse à laquelle ils ne comprennent rien, puis qu'ils ne retrouvent pas les papiers, puis qu'ils savent pas où tu as mis ça. Là, c'est tout chez le notaire, tout le monde s'en va là, puis ça vient de s'éteindre.
Ouais. Merci beaucoup, Martin Provencher, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. On va s'arrêter ici, très courte pause. Il y a des gens qui veulent intervenir. Déjà, je suis contente. C'est un sujet important, puis je suis contente qu'on l'aborde ce matin, la capacité qu'on a ou non de parler de la mort, de faire face au deuil. Je pense que c'est quelque chose, même si on veut se mettre la tête dans le sable, c'est inévitable.
Ah oui.
Ça nous frappe, puis je pense que le fait d'être capable d'en parler... Mais ça nous prépare à la fois où ça t'arrive. C'est sûr que ça va arriver. Je parle pas de notre mort à nous, je parle de la mort des gens qui nous entourent.
Oui.
Moi, je trouve que c'est ça le pire. C'est pas notre mort que la pire, je trouve. C'est la mort des autres.
Survivre à ceux qui partent et qu'on a aimé.
Pour ceux qui restent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui restent? Moi, c'est ça là, qui m'intéresse.
Tout à fait.
Alors, c'est ce que je vous demande ce matin. Est-ce que vous êtes capable, vous, de trouver les mots? Êtes-vous capable de, quand vous faites face à la mort des gens là, qui vous entourent, faire face au deuil, c'est une difficulté. Je veux dire, personne là, qui a des cours pour ça. On vous parle tout de suite après la pause. 514-790-9850. Êtes-vous capable de parler de la mort, de faire face au deuil? C'est des questions qu'on n'aborde jamais. Puis je suis vraiment contente qu'on prenne le temps d'en parler ce matin. On a Diane avec nous. Bonjour, Diane.
Bon matin. Alors, je suis contente de pouvoir exprimer le fait que de parler de la mort, j'aurais pas pu dire ça il y a un an, mais j'ai accompagné, on a accompagné mon papa l'an passé, toute ma famille, mes frères, mes sœurs. C'était le plus beau moment à vie. Mmh. Et ce que je veux vous mentionner, ce qui est encore le plus grand cadeau que mon père nous a fait, c'est de nous permettre de s'organiser lui-même avec toutes ces choses. Il avait tout prévu. Mmh. Et à 24 heures de décédé, il a même dit à ma sœur, et il était très conscient, « Dépêche-toi, prends mon permis de conduire, va transférer la voiture à ton nom, je te la donne, je veux pas que t'aies de problème avec ça. » C'était difficile, mais magique. Il était comme, c'était important pour lui de se dire, je pars tranquille, j'ai eu des bons enfants. Il nous a même dit, j'étais, j'espère, un bon papa, même quand je vous ai chicané fort.
Oh, vous êtes chanceuse, Diane! Ah, oui. C'est super!
Ben oui, c'est bon.
J'en parle et j'ai des gros frissons parce que je me dis, c'est vrai que c'est pas facile, mais si on prend pas la mort au premier degré, je sais que certaines circonstances c'est plus difficile, mais si on prend pas la mort au premier degré et qu'on en parle, ça peut devenir assez magique.
Ouais.
Assez magique au niveau de l'apaisement, de comment on en sort de ça. J'ai encore beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, mais mon cœur est tellement rempli d'amour, là. Alors je vous souhaite à tous et à chacun de prendre le temps au moment qui vous conviendra finalement, mais faites-le. Vous allez voir, ça change tout.
Ah, merci, c'est un témoignage magnifique.
Oui, c'est super
vraiment,
beau.
Là. Vous voyez, il y a des ça belles façons
journée,
de parler de la mort aussi.
Oui,
en fait, elle ne nous parle pas de la mort, elle nous parle d'un accompagnement.
Mais c'est
là.
Un bel enseignement de son père, lui.
C'est un accompagnement dans la fin de la vie.
Oui,
on peut le voir comme ça aussi. Ben merci beaucoup, Diane. Denis, bonjour, Denis. Vous avez une histoire. Vous avez perdu votre fille. Quel âge avait-elle?
6 mois et demi.
Oh mon Dieu.
Wow.
Ça, c'est autre chose, hein?
Je l'ai appris le 5 décembre 2010 par téléphone à 5 heures du matin. C'est ce qui m'a réveillé ce jour-là. Ma fille est avec sa maman en voyage en Chine. Puis elle est morte là-bas.
Oui.
Bon, ça a été très difficile. Je vous compterai pas aussi le rapatriement du corps et tout, là.
Oui.
Puis j'avais pas, tu sais, tu penses pas à prendre une assurance vie pour
un petit poupon, ben non.
Qu'est-ce qui s'est passé, Denis?
C'est une malformation de naissance cardiaque et c'est l'artère coronarien droit qui fonctionne pas. Fait que c'est 1% des bébés qui meurent à chaque année de ça. Et puis la partie qui fonctionne pas, c'est nécrose, puis ils vivent pas plus que 7 mois.
OK. Et ça, vous ne saviez pas qu'elle avait cette condition-là? Oui, c'est ça.
Non, c'est très dur à détecter. Puis, mais quand on le détecte, c'est un succès à 99%. Là,
ouais.
Et puis, bon, moi, j'ai été comme 7 ans dans, j'appelle ça mes limbes.
Oui.
Où je faisais juste fonctionner. Là. Je donne toujours l'exemple du jour de la marmotte, là, le film.
Oui, ouais. Chaque jour était pareil.
Pareil, ouais. Pareil. Il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas... Il n'y avait rien. Là. Je faisais mon travail. Moi, j'étais un travailleur autonome. Puis c'est tout ce que je faisais. Puis je me suis mis à travailler le soir aussi. C'est souvent des réactions qu'on a.
Mm-hmm. Surtout les hommes. Hein?
Ouais. Pardon?
Surtout les hommes, vous vous jetez beaucoup dans le travail quand vous êtes dans le deuil. Ça anesthésie cette douleur-là, mais à un moment donné, il faut y faire face.
Les filles
exactement.
Aussi.
Exactement.
Les filles aussi. On peut être de même.
J'ai fait des recherches Internet, puis je suis tombé sur la maison Montbourquette.
Oui. Ah, ben là, vous parlez à la bonne personne. Dominique Bertrand a été porte-parole de la maison pendant
13 ans.
13 ans.
Ouais.
Là, on en a d'ailleurs parlé. Aviez-vous entendu quand on en a parlé avec Dominique il y a à peu près un mois et demi,
oui,
deux
exactement.
Mois?
Oui, exactement.
Oui, ben, j'ai tout fait mes recherches, j'ai regardé. Oui.
Parce qu'elle a fermé la maison à Port-Ouvert.
La maison à Port-Ouvert
ce printemps à l'Université de Montréal.
C'est ça, Dominique. Oui, là-dessus, as-tu des. Ben, peut-être de, quelques infos là-dessus,
oui,
Dominique, sur la maison comme telle, sur la maison Montbourquette, bon. Ça en est où? Est-ce qu'effectivement, ça rouvre, comme vient de nous le dire Denis,
en fait,
ce printemps?
C'est-à-dire qu'il va y avoir une chaire de recherche à l'Université de Montréal, qui est une chose différente. Mais pour les gens qui, en ce moment, auraient besoin de parler, auraient besoin de rencontres, il y a la Fondation Pali Ami, maintenant, qui offre un service aux endeuillés. Alors, il y a des bénévoles de la Maison Montbourquette qui sont maintenant à la Fondation Pali Ami. Mm-hmm. Ils font un très, très bon travail. Tu pourras mettre, Isabelle, sur votre site Internet, les coordonnées, les numéros de téléphone et tout ça.
On peut le donner tout de suite, si tu veux. C'est Pali Ami, paliami.org. Et le numéro, c'est 514-413-8777, poste 25353.
Et on parlait des hommes, la façon des hommes aussi de réagir. Il y a le Centre de ressources pour hommes de Montréal qui reprendra les groupes de soutien pour les hommes en deuil. Alors, c'est le 514-355-8300. Et il y a aussi finalement la Maison des petits tournesols qui est une nouvelle ressource qui va offrir des services destinés aux enfants et aux adolescents en deuil. Les services jeunesse et aussi la musicothérapie seront repris par cette ressource-là. Alors, le numéro de téléphone est le 514-543-0503. Et puis, il y aura bientôt aussi une ligne d'écoute qui va être en fonction très bientôt. Je pourrai te transmettre les informations, Isabelle, dès que je les aurai.
Wow, ben alors voilà pour toutes ces infos-là. Merci beaucoup, Denis. La vie va comment aujourd'hui?
Ah ben, moi, j'ai fait thérapie individuelle de groupe, puis j'étais rendu justement cet automne à embarquer dans un groupe privé avec des parents qui ont perdu des enfants, mais c'est comme ça que j'ai appris que c'était fermé.
Est-ce que
chez Pali Ami, est-ce qu'ils ont le même système?
En fait, oui, vous pouvez appeler là-bas, ils vont ça fonctionne par rendez-vous, alors il y a des rencontres. Alors moi, je vous conseillerais vraiment de les appeler, mais vous pouvez aussi aller au Centre de ressources pour hommes de Montréal.
Ouais.
Ça pourrait peut-être être indiqué dans votre cas.
Parce que
j'étais rendu à l'étape d'être avec des parents qui ont perdu des enfants, parce que les groupes, au début, c'est tout mixte, là, ta mère, etc. Puis dans le spécialisé, les groupes fermés, ben là, t'es avec du monde qui ont vécu la même chose que toi.
Ouais.
Ben je dirais que la vie va beaucoup mieux. J'ai entendu quelqu'un tantôt qui essaye de profiter au maximum de la vie. Un peu rendu là, mais
Vous avez pas
besoin de continuer là, avec des parents qui ont perdu des enfants pour compter mon histoire, parce qu'on veut, c'est ça qu'il faut.
Oui,
Que, Denis, vous êtes toujours avec votre conjointe?
Oui.
Et est-ce que vous n'avez pas eu d'autres enfants?
Oui, on a une petite fille de 6 ans.
Ah. Ouais.
Et dès le début, on a intégré dans sa compréhension, quand elle était capable, qu'elle avait une grande sœur, mais qu'elle avait aussi une sœur qui était au ciel. Mm-hmm. On a des photos dans la maison, puis elle me parle souvent de sa sœur.
Ah, oh, c'est bien.
Merci
c'est
beaucoup, bien. Denis. Restez en ligne, s'il vous plaît. On va prendre votre numéro de téléphone.
Okay.
C'est moi ça qu'on garde contact. Merci beaucoup, Denis. On va s'arrêter ici. On vient tout de suite après avec vos témoignages. Plein de gens veulent intervenir. Alors, on vous parle tout de suite après ceci. Je vous demande ce matin, avec mes invités, Dominique Bertrand et Alain Labonté, si vous avez cette capacité de parler de la mort. Et surtout, c'est pas tant de parler du sujet comme tel que de dire à quelqu'un qui vit ça, de donner un peu de réconfort, d'être bienveillant, comme disait Alain Labonté, puis aussi de faire face au deuil soi-même, faire face au deuil des gens qu'on aime. C'est extrêmement difficile. Oui. Hélène l'a vécu, d'ailleurs. Bonjour, Hélène.
Bonjour.
C'est encore frais, hein? Un an, c'est pas long.
Non, c'est pas long, puis je m'excuse, je vais avoir le bâton.
C'est sûr.
Oui, j'ai bien beaucoup de difficultés parce que mon mari, il ne savait pas de quoi qu'il est mort, fait je m'attendais pas à ça. Alors, il me disait tout le temps qu'il était pour sortir vivant. Fait que là, j'ai beaucoup de difficultés auprès de la mort de mon mari.
C'est une maladie, mais soudaine, c'est ça?
Non, ils ne savent pas du tout. Il n'y avait pas de cancer, j'ai tout lu le rapport ici, il n'y avait pas de cancer, rien.
Mais est-ce qu'il est mort soudainement ou il est mort d'une longue maladie inexpliquée?
Je l'ai rentré le 7 mars, puis il est décédé le 25 mars 2017.
Hey boy!
Mm-hmm. Oui. Et puis, c'est ça, puis ce que je trouve, la famille n'est pas tout le temps avec la compassion.
Ouais. Non.
c'est...
Qu'est-ce que vous avez vécu là-dessus, Hélène? Vous avez trouvé les gens égoïstes? Ou...
Oui, parce que d'un côté, c'est sûr, c'est une histoire triste. J'ai toujours vécu avec mes parents. Fait que la mort de mon père, c'était dur. Mmh. Parce qu'il était le premier à partir. Et puis, ma mère nous a légué la maison jusqu'à temps qu'on soit capable de l'entretenir. Oui. Puis, ben, dans ça, ben, il y avait des gens qui voulaient avoir leur héritage.
Mmh. OK. Alors, tiens,
c'est sûr. Oui. Quand mon mari est décédé, 3 jours après, j'ai eu de la visite de la famille pour qu'on vende la maison. Puis, ben,
alors là, on essayait de vous priver en plus de votre d'un repère important, votre maison. Oui. Quand vous perdez quelqu'un, vous perdez le repère, votre mari ou votre repère le plus important. Puis là, tout d'un coup, on veut vous mettre. Ben moi, j'ai vécu ça. Moi,
as-tu vécu ça, Dominique?
Moi, 3 mois après, moi, il fallait que je déménage.
Arrête.
Ouais,
comment
pour
ça?
Justement une question de testament pas fait. Alors, oui. Alors moi, 3 mois après le décès de mon conjoint, de mon fiancé, il a fallu que je déménage. C'est difficile. Puis est-ce que vous
et
avez
qui t'a forcé à déménager?
Ben en fait c'était
la maison t'as qui? Ou...
La maison était à Jean, mm-hmm. mais la maison
est tombée dans la succession.
À, exactement, est tombée à la succession.
Okay. Puis t'étais pas comme t'étais pas marié.
Non, c'est mais ça? C'est ça. Et moi Jean est mort un mardi. En fait il est mort non c'est pas vrai. Il est mort un mardi et puis le jeudi suivant il devait aller chez le notaire.
Arrête.
Ouais, exactement.
Ça aurait été plus simple un petit
peu. Oui, et puis quand il s'est jamais présenté chez le notaire a appelé, il a dit j'attends monsieur Archambault, je dis monsieur Archambault, il est mort mardi. C'est plate comme non. ça
mais... en jouant après une partie de squash.
Oui, exactement. Ouais. Mais vous, madame, là, en ce moment, est-ce que vous avez des recours? Est-ce que vous avez de l'aide, du support? Est-ce que vous consultez? Même du côté légal, vous pourriez consulter pour être protégée de ce côté-là? Là.
Bien là, mais je suis rendue... Bien, il fallait que je trouve un appartement. Fait que le 25 juin 2017, j'ai trouvé un appartement. J'ai jamais été en appartement. Et... J'ai pas d'enfant.
Bon.
Et puis, j'ai perdu ma job.
Votre okay. meilleur ami est décédé?
Non, ça ne jamais.
Vous avez perdu votre travail, excusez-moi, j'avais compris, ma chum.
Oui.
Bon. Ouais, c'est des moments difficiles. Hein.
Mais oui. Pourquoi vous appelez pas chez Pali Ami, là?
Oui,
je pense que
c'est clair, il faut. Faut Hélène,
je pense
faut,
que vous avez vraiment. Je redonne le numéro de téléphone. Oui. Pali Ami, 514-413-8777, le poste 25353. Alors, c'est des gens qui vont avoir de l'écoute pour vous, puis qui vont vous aider, puis qui vont donner du support. Restez pas comme ça.
Non.
Vous passerez pas à travers. Ça va prendre bien du temps avant que vous passiez à travers si vous n'allez pas chercher de l'aide. Je sens que vous êtes là.
Oui, c'est ça.
Encore, c'est comme vous êtes à vif encore.
C'est sûr, c'est sûr.
Oui. Comme si c'était hier qui t'a décidé.
Je comprends.
C'est sûr.
Mais merci. Comme Dominique vous dit, là, elle vous donne un outil là, pour aller chercher de l'aide. Donc, profitez-en. Là, sautez sur l'occasion.
Merci beaucoup, Hélène. Bon courage. Merci de nous avoir appelés. D'ailleurs, tous ces numéros qu'on vous a donnés sont sur notre site Internet. Normand vient de me confirmer ça. C'est sur notre site Internet. Robert est avec nous. Bonjour, Robert.
Bonjour.
On vous écoute, Robert. On vous écoute.
Oui, bonjour. Ben moi, ma conjointe est décédée le 13 février 2016.
Oui.
Donc, c'est que ça a vraiment pas été facile. Et puis, j'ai eu de la misère. J'ai eu de la chance d'avoir un de mes amis. Ça fait 40 ans qu'on était amis ensemble. Et puis, lui, il m'a remonté pas mal. On a jasé beaucoup. Et là, ben, le 20 septembre de cette année, c'est sa femme à lui qui est décédée. Oh,
ben voyons donc.
Fait que j'aurais jamais pu croire que mon expérience servirait à mon frère à un moment donné. Et c'est ça qui est important. Je l'appelle mon frère.
Je comprends, on comprend.
Fait que c'est ça. Ça a fait vraiment... C'est spécial. Ce que la vie nous donne, là, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'elle nous donne pas rien pour rien.
Il y a rien pour rien.
Ouais, c'est ça. Il y a une raison à ça. Puis... Moi, ma conjointe, ma blonde, est décédée de façon subie. Le vendredi, on donnait des becs, puis le lendemain, ben, on était pour faire une chose à Spagne. Puis elle avait hâte d'arriver pour la santé, puis à 11h le matin, j'ai su qu'elle était décédée.
De quoi? De quoi elle est décédée?
Elle serait décédée d'une thrombose veineuse profonde.
Wow. Oh, Seigneur, une affaire qui arrive.
Ouais. Une affaire qui arrive, c'est comme un docteur, il a dit, ben, la lumière, c'était ça.
C'est ça.
Ah,
c'est
bien, mon Dieu.
Dans un sens, là, je me dis que je suis content parce qu'elle n'aura pas connu de maladie dégénérative.
OK.
Elle n'aura pas connu...
La souffrance non plus.
C'est ça, la souffrance de connaître les la dégénérescence,
ouais.
De plus travailler, de plus avoir permis, puis...
Mais vous avez été capable de voir les côtés positifs à travers cette douleur-là.
C'est
bon.
Mais c'est drôle ce que vous dites, Robert, parce que c'est souvent la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est mieux? Tu sais, quand tu te dis, OK, on regarde la mort, puis on se dit, qu'est-ce qui est mieux? Comment c'est mieux de mourir? C'est mieux de mourir? Idéalement, c'est dans ton sommeil vieux.
C'est ça.
Puis dedans, tu t'en rends pas compte, ça va bien. Mais c'est pas toujours de même. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, moi, j'ai eu aussi mon père est mort subitement. Il est parti à la chasse, puis il est jamais revenu. Puis je me suis souvent posé cette question-là, puis je me le demande encore. Est-ce que c'est mieux? Puis j'ai un très bon ami, Daniel, qui est mort ce printemps, en 3 semaines, cancer foudroyant.
Ouais.
On n'est pas prêt pour ça. Mm-hmm.
Non.
T'es pas prêt. Tu vois quelqu'un le matin, puis il revient jamais, il dit bye
bon
à tout à l'heure, puis il y en a pas de tout à l'heure.
Non. Mm-hmm.
Ou finalement, t'as la longue maladie, t'as Joanne, 8 ans de sursis,
ben ouais.
Où là, tu sais que. Mais dans les deux cas, dans les trois cas, ça fait autant mal, ça fait mal pareil.
Ouais. Mais ça fait mal différemment, mais ça fait mal.
Mais ça
autant.
Reste un vide.
Mais ça fait mal pareil. Oui. Tu dis pourtant, j'ai eu le temps de m'habituer, je le savais. Non, c'est comme si on n'est jamais prêt. Oui, Robert.
C'est les non-dits. Dans une, comme tu dis, une maladie, quand ça fait longtemps, ben, tu n'aimes pas ça, mais tu la vois arriver. Donc, il y a des choses que tu parles, il y a des choses que tu règles.
T'as le temps de régler des choses.
T'as le temps de parler avec. Parce que quand ça arrive subitement, ben, tu leur remets la réponse.
Moi, j'ai l'impression que la mort subite, c'est pas mal ce qu'il y a de plus difficile.
Ben, en fait.
Ouais. Comme toi, comme vous,
oui,
Robert,
exactement.
Ce que vous avez vécu, comme ce que tu as vécu, Dominique.
Ben, puis en plus, même pour la personne qui décède, qui n'a pas le temps de demander pardon, qui n'a pas le temps de se raccommoder avec des gens avec qui on était en froid.
Oui, mais mettons qu'elle n'y pense pas longtemps.
Non, mais quand même.
Parce qu'elle est morte.
Tu comprends? Oui, mais tu voudrais certainement
mourir.
Tu voudrais certainement mourir l'âme en paix.
Si tu t'en rends compte, c'est sûr.
C'est ça. Mais, tu sais, puis pour les gens qui restent, c'est comme un coup de batte de baseball dans la face.
C'est clair. Les amis,
Dominique,
oui, Alain, 10 secondes, on va à la pause après.
Mais ça dépend aussi parce qu'il y a tellement de gens qui ont peur de mourir. S'ils savent que ça s'en vient, peut-être qu'ils n'auront pas le temps de gérer ça.
Non, c'est ça.
C'est vrai.
Une logistique ici. Là.
C'est vrai.
Mais,
on a un débat devant nous.
Une chose est sûre, il faut s'arranger pour pas avoir trop de regrets. Trop de frustration.
Ça veut dire qu'il faut bien vivre.
C'est ce que tu disais, c'est ce que pense Alain aussi.
Tout à fait.
C'est une job de vie, ça, bien vivre. Faut se le rappeler régulièrement.
Ce que Dominique disait au début, là, donner des croissants, là, c'est pas juste qu'on est en train de mourir. Là. C'est à tous les jours de notre vie.
C'est vrai.
Comme le monsieur qui vient de nous parler, que son ami l'a accompagné.
Ouais.
Ben, dans la vie, on est une équipe.
C'est ça.
Une équipe, ben, on se passe le ballon.
Tu parlais de bienveillance.
Puis moi, quand
tout,
ma mère.
Ben oui.
Quand ma mère a fait ses dépressions profondes, puis tout ça, je me disais, on est comme une équipe de football. Quand ma mère est en dépression, elle était sur le banc.
Ouais.
On était 8 sur le terrain au lieu de 9.
C'est ça.
Mais on portait le ballon pour 9, par exemple.
Et hey, toi, là,
non, mais c'est
plus
vrai.
Je te connais, plus je pense que tu es un saint. J'ai jamais vu quelqu'un de même de ma vie.
Non.
Ça.
Il se tient beaucoup dans les monastères.
C'est
ça
vrai.
Doit aider.
Oh, je
on vient tout de suite après la pause.
Je suis
toi,
tellement plate de
on vient après. Bonjour, Manon. Je pense que vous êtes en ce moment en accompagnement de votre papa qui est mourant.
Oui, tout à fait. Mon père est à l'hôpital depuis un mois, qui est en soins palliatifs.
Mm-hmm.
Là, j'écoute vraiment ce que tout le monde dit ce matin.
Mm-hmm.
Moi, ce qui me fait peur, je me trouve chanceuse parce que je le vois pratiquement tous les jours. Je passe beaucoup de temps avec lui, moi et mes soeurs, ma famille. On se dit ce qu'on a à se dire, on se pardonne un paquet de trucs. Je vis vraiment des beaux moments avec lui. De ce côté-là, je l'apprécie infiniment. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, ce qui me fait peur, c'est comment je vais réagir quand il va partir.
Mmh.
Et je sais pas où aller chercher. Bon, j'ai pris le numéro de téléphone.
Oui, j'allais vous l'envoyer.
Oui.
Mmh.
Mais fait que je me dis, Je ne sais pas, est-ce qu'il existe quelque chose, un livre, quelque chose qui peut m'aider à...
Oui, vous avez Dominique, des livres. Ouais. Oui, le père Monbourquette, qui était en fait, dont la maison Monbourquette a été inspirée par les enseignements du père Monbourquette, a écrit plusieurs livres qui sont des best-sellers partout dans le monde, qui ont été traduits dans toutes les langues. Il y a un livre qui s'appelle « Aimer, perdre et grandir » qui est extrêmement facile à lire parce que quand on est en deuil, on se fatigue facilement. Ouais. Et ce livre-là se lit vraiment, c'est très paisible et c'est très apaisant, c'est très calmant. Ça calme l'angoisse qui vient avec le deuil. Ce livre-là, je vous le recommande vraiment. Et je pense que toi aussi, Alain, tu aurais une recommandation.
Oui, oui. Président, moi, Alain. Un de mes livres... préféré à vie, ouais. C'est la consolation de Jacques Attali. Il fait 16 entretiens avec 16 personnes qui ont vécu le deuil.
D'accord.
Et la façon qu'ils ont remonté ça. Exemple, des gens qui ont été à Auschwitz, qui ont perdu leur famille, mais qui, eux, ont survécu. Ou Laure Adler, l'auteur qui a perdu un enfant. Comment elle poursuit sa vie. Donc, c'est un livre extraordinaire, très, très lumineux.
Parce que vous avez raison de dire que ça épuise. Le deuil, la perte des gens qu'on aime, ça arrache le cœur. Oui, ça épuise.
T'as plus d'énergie.
C'est un vide dans un vide.
Oui.
C'est ça.
Donc, il faut être entouré ou il faut trouver du soutien. Puis des fois, on n'a pas toujours 8 personnes autour de soi, mais on peut effectivement trouver du soutien dans des lectures qui peuvent rassurer ou en tout cas faire du bien aussi.
Puis ça nous rappelle qu'on est peine aussi. Pleurez là. Les gens se disent, oh, j'ai assez pleuré, il faut que je continue. Pleurez jusqu'à temps que vos larmes soient taries. C'est normal de pleurer quelqu'un qu'on a aimé.
Pleurer, ça fatigue aussi.
Pleurer sa peine, c'est très, très, très important. Ouais. Puis aller chercher de l'aide, appeler chez Pali Ami, prenez rendez-vous. Vous avez plus de chances de survivre, de traverser votre deuil de meilleure façon si vous êtes accompagné.
Et moi, j'aimerais ajouter quelque chose pour vous. Aussi, accrochez-vous au fait que vous vivez quelque chose de beau.
C'est ça.
Souvenez-vous de ce que vous êtes en train de vivre avec. Vous avez la chance de le vivre.
Ben, c'est une
Donc, accrochez-vous à ça aussi.
Ben oui, Manon, c'est sûr. En ce moment, vous êtes en accompagnement. C'est vraiment un moment important.
Ça, c'est un grand privilège.
Oui, c'est ça. Oui, vraiment.
Mon Dieu, vous me faites voir ça d'une façon lumineuse, comme le titre de votre livre. Je vais vraiment, là, j'ai noté, je vais lire ces livres-là. J'apprécie énormément.
Vous faites 1-800 Alain, Dominique, Isabelle. On répond tout le temps, nous autres.
En anglais, en français.
Ben oui, dans toutes les langues.
Merci beaucoup, Manon. Merci, puis le mieux
pense
pour
à vous.
Oui, on pense à vous,
tout
vraiment.
À fait,
on a Carole avec nous. Bonjour, Carole.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, bonjour. Moi, il y a environ 4 ans, une de mes petites sœurs qui est décédée, on avait pendant une semaine le même âge. Puis, en février, j'ai un autre de mes petites sœurs qui est décédée. Pour le même cancer.
OK.
Fait que ça c'était quand même dur.
Je comprends.
Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'avec Joanne, la première, c'est que on a passé du temps avec. Puis j'étais avec mon autre sœur. Puis elle m'avait dit, si ça m'arrive, j'aimerais ça que tu sois là. Trois ans après, en mois de février, elle m'annonce qu'elle a le même cancer.
OK.
C'était assez difficile.
Bien sûr.
Mais
Fait combien de temps déjà de ça?
Francine est décédée le 22 juillet cette année.
Okay. Et c'est récent, là.
Oui, c'est sont 3 ans et demi de différence.
Mm-hmm.
Ouais. Mais tu sais, j'avais pendant la même âge que Joanne, pendant une semaine. C'était hier, sa fête. Puis elle, pendant un mois, elle avait la même âge que Francine.
Oh mon Dieu, c'était proche.
On était assez proches, mais j'ai été chanceuse parce que j'étais avec eux autres.
Ouais,
j'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'est pas tout le monde qui peut se permettre
d'arrêter
de travailler puis de dire OK, je vais prendre du temps.
Comme dit Alain, c'est avec un privilège accompagner.
Tout à fait.
Ah oui. Puis, tu sais, moi, je sais qu'ils sont là. Je sais.
Vous les sentez.
Les sens avec moi, c'est sûr.
Ouais. Merci beaucoup, Carole, de votre témoignage.
Beaucoup.
Vous êtes inspirante.
Je reçois plein de courriels. Il y en a tellement là, que...
Pour moi, le téléphone va sonner aujourd'hui, Dominique. On est mieux d'être off, nous autres.
Oui, c'est ça. Il y a un livre, rapidement, on va parler quand même du Salon de la mort.
Il y a un livre dont il faut absolument que je parle qui s'appelle « La mort est un nouveau soleil » de Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychologue, psychiatre... vraiment qui a vu au moins 2000 personnes mourir. Ah, la mort est un nouveau soleil. C'est un des livres les plus apaisants sur la vie après la mort, sur ce qui se passe quand on meurt. Extraordinaire. Ouais. C'est un livre formidable, vraiment. Ouais. Une petite plaquette de rien.
Merci beaucoup, Dominique Bertrand, d'avoir été là. Alain Labonté, Salon de la mort?
Oui, en fin de semaine.
Salon de la mort, mais ce ne sera pas morbide. C'est au contraire une source d'information. Il va y avoir plein de gens. Ceux qui n'ont pas leur testament, il va y avoir du monde, sans doute, pour vous conseiller.
Oui, pour les legs, mais aussi, il y a plein de conférenciers. Jean-Marie Lapointe, France Gauthier. On va parler du deuil animalier, comment vivre le deuil avec les enfants. Il y a toutes sortes, les urnes, plein d'affaires. Il faut venir, ça va être hyper intéressant. Et c'est moi qui vous accueille, en plus.
Merci beaucoup, Alain. Merci.
Ha ha ha.